Daniel 5. En anglais, il existe l'expression « The writing is on the wall ». Et si je devais traduire ça littéralement, ça donnerait quelque chose comme « L'écriture est sur le mur ». Mais c'est du très mauvais français. En bon français, ça serait « C'est écrit sur le mur ».« The writing is on the wall ». Une expression qu'on utilise lorsqu'une situation ne présage rien de bien, rien de réjouissant. Et je réfléchissais à une expression française qui pourrait aller, il n'y en a pas. Franchement, il n'y a pas d'équivalent en français de cette expression-là. Et l'expression la plus proche que j'ai pu trouver, c'est celle qui dit « les carottes sont cuites ». Qui désigne, si vous voulez, une situation irrémédiablement compromise ou une situation sans espoir, quand on dit les carottes sont cuites, ou alors on dit d'une situation ou d'une personne, c'est mal barré pour toi. Dire c'est mal barré, c'est dire que si tu continues comme ça, tu vas droit dans le mur. Et l'expression « The writing is on the wall » vient directement du chapitre 5 de Daniel. Et vous le savez peut-être, si vous avez lu déjà le livre de Daniel, ce chapitre 5-là concerne en effet l'apparition d'une main détachée de tout corps qui écrit sur un mur quelque chose que même le destinataire ne comprend pas. La question qu'on va se poser ce matin, c'est est-ce que nous serions dans une posture dans notre vie pour laquelle Dieu viendrait écrire sur le mur de notre vie? Dieu écrit-il sur vos murs? Dieu écrit-il sur mon mur à moi? Si tel est le cas, que dit cette inscription? Et ça, c'est la question que je nous laisse et qui va nous porter pendant cette intervention. Et dans le chapitre 5, que je n'irai pas tout, alors je nous propose de voir ce texte-là par section. Aujourd'hui, nous verrons seulement la section des versets 1 à 4, et puis nous laisserons le reste pour la prochaine fois. C'est un beau chapitre, je dois dire. J'ai découvert pas mal de choses en étudiant ce chapitre-là. Il est bien dense, bien fourni, avec beaucoup d'éléments. Mais nous allons nous attarder sur ce personnage un petit peu qui nous est parlé, là, Belshazzar. Et je m'en vais lire le verset 1 à 4 du chapitre 5 de Daniel. Vous êtes là. Je lis. Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Je vais continuer un petit peu. C'est à ce moment-là qu'apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur. Genre il blêmit, quoi, devient pâle. Il changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Jusque-là, notre lecture. Une main qui écrit sur un mur. Et là, il s'agit de Belshazzar. Qui est Belshazzar? Et pourquoi Dieu écrit-il sur son mur à lui? Alors, si vous avez suivi les séries, enfin les chapitres précédents que nous avons vus, hein, chapitre 4, par exemple, il était question de Nebuchadnezzar, chapitre 4. Et là, on est au chapitre 5, et donc plusieurs années sont passées entre le chapitre 4 et le chapitre 5. Et on ne s'en aperçoit pas souvent, parce que bon, on lit les textes les unes à la suite des autres, et on ne s'aperçoit pas du temps qui s'écoule. Mais entre le chapitre 4 et les événements du chapitre 5, il s'est passé environ 23 ans. Chapitre 4 finit avec la mort de Nabucodonosor ou Nebuchadnezzar. Et chapitre 5 commence avec Belshazzar qui a débuté son règne un petit peu avant. Le texte nous présente Nebuchadnezzar comme le père de Belshazzar. Mais en réalité, Belshazzar n'est que le petit-fils de Nebuchadnezzar. Et en étude biblique, je disais un petit mot là-dessus. Vous savez, dans la Bible, l'expression « père » ne veut pas tout le temps désigner une filiation directe. Le mot « père » peut vouloir désigner une lignée. C'est comme lorsqu'on dit, par exemple, « Jésus, fils de David ». Vous avez déjà vu ça dans la Bible, hein? Et on sait très bien que David n'est pas le géniteur de Jésus. C'est comme lorsqu'on dit aussi les Juifs, on dit des Juifs, que Abraham c'est leur père. D'accord ? Donc le mot père dans la Bible peut ne pas désigner une filiation directe, comme c'est le cas ici, mais peut désigner une filiation, une lignée plutôt. Une lignée. Donc je descends de, et Abraham c'est mon père. Comme Adam, c'est le père de l'humanité, dit-on. Et donc ici, Belshazzar n'est que le petit-fils de Nebuchadnezzar. Et on nous dit que le roi donne un banquet pour ses dignitaires, ce qui n'a rien d'original en soi. Donner un banquet, on l'a déjà vu dans la Bible, des rois donnent des banquets, même dans le monde. Monsieur Macron invite des dignitaires étrangers et puis il donne un banquet. Ça n'a rien d'extraordinaire. Ce qui l'est plus, ce sont les circonstances entourant ce banquet. Alors, vous savez, tout n'est pas écrit dans la Bible, mais les historiens de l'époque rapportent que, alors que Belshazzar donne son banquet, la ville de Babylone est assiégée. Vous avez l'armée perse conduite par le roi Cyrus qui est autour de la ville. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un banquet où il convie 1000 dignitaires. Et moi, j'ai envie de dire, quelle arrogance. Ta ville est attaquée, tu fais la fête. Ça donne un petit peu une vision de qui pourrait être Belshazzar. Et pour dire un petit peu plus, dans la littérature sur l'histoire de Babylone, il est dit que la ville, alors c'est peut-être pour ça qu'il ne s'inquiétait pas, hein, la ville était traversée par une rivière, l'Euphrate. Et donc, il n'y a pas à craindre de pénurie d'eau, puisque ma ville et traversé par une rivière. On nous dit aussi qu'ils avaient des réserves de vivres pour plusieurs années. Pourquoi craindre un siège? Et on nous dit aussi que la muraille de Babylone était si épaisse qu'on pouvait avoir deux ou trois chars qui roulaient dessus, côte à côte, pour dire l'épaisseur du mur de Babylone. Alors pourquoi craindre les ennemis? Pourquoi craindre un siège? Nous sommes à l'abri. Mais voilà, Belshazzar va pousser son arrogance à son comble. Et on nous dit, dans les versets que nous avons lus, poussé par l'emprise de l'alcool, il ordonne de lui ramener les coupes d'or et d'argent que Nebuchadnezzar, son père, ou son grand-père, son aïeul, plutôt, avait rapporté du temple de Jérusalem, afin que lui et ses convives y boivent dedans. Où est le problème? Pourriez-vous demander? Parce que c'était des ustensiles réservés au culte du vrai Dieu. Autre chose qu'il faut savoir, on pourrait dire Nebuchadnezzar, lui, il n'a pas fait moins, hein, il était dans l'idolâtrie lui aussi, ce grand-père-là. D'accord? Mais pour autant, ce qu'il a fait avec les ustensiles d'or était logique. Il a vaincu l'armée israélite, il a récupéré ce qu'il y avait dans le temple, parce que, vous savez, lorsque une armée vainquait une autre armée, dans leur tête, ce sont deux dieux qui se bagarrent. Et Babylone qui remporte la victoire sur Israël, dans leur esprit, c'est « mon Dieu est plus fort que ton Dieu ». Et donc, je prends ton Dieu, si c'est une statuette, je l'emmène chez moi, dans le temple de mon Dieu, et je le mets dans une posture de soumission à mon Dieu. Les Israélites n'ayant pas d'image taillée, ben ils ont demandé à récupérer les ustensiles du temple. Et naturellement, ils l'emmènent dans le temple de son Dieu. Et ils s'arrêtent là. Ce qui est un procédé normal, dirait-on. Même s'il ne fallait pas toucher aux ustensiles du temple. Mais Belshazzar va plus loin. Dans sa beuverie, il exige qu'on lui emmène les ustensiles du temple pour boire dedans. Laissez-moi vous dire que ça, c'est non seulement un acte blasphématoire aux yeux de Dieu, mais aussi un sacrilège aux yeux de Dieu. Deux concepts qu'il faut bien comprendre. Le blasphème a un rapport à la façon dont nous traitons Dieu. Alors que le sacrilège concerne la façon dont nous traitons ce qui appartient à Dieu. Tout ce qui est consacré à Dieu, si nous faisons un mauvais usage de ce qui appartient à Dieu, nous commettons un sacrilège. Et le mépris blasphématoire de Belshazzar envers Dieu, le texte le dit, hein, plus bas, qui avait sa vie entre ses mains, est évident. On n'a aucun mal à discerner le sacrilège et le blasphème commis par Belshazzar, de même qu'on n'a aucun mal à discerner le blasphème lorsque quelqu'un comme Morgan Freeman, interrogé par un animateur télé, lui demandant « Est-ce qu'il est un homme qui craint Dieu ?» Qu'est-ce que lui répond Morgan Freeman ?« Je n'ai peur de rien, je suis Dieu. » On n'a aucun mal à discerner le blasphème. Cependant, nous avons parfois beaucoup de difficultés à repérer les blasphèmes et les sacrilèges dans certains de nos actes à nous. Nous ne pensons pas forcément à la possibilité que nous soyons en train de traiter Dieu et ceux qui lui appartiennent de manière inappropriée. Et bien souvent, cela arrive. Nous venons à l'église, nous lisons la Bible, nous chantons des cantiques, nous soutenons l'église parfois avec nos dons, nous ne pensons même pas à jurer avec le nom de Dieu. Nous savons que c'est interdit. Nous essayons de traiter les membres de la communauté au mieux, mais le blasphème et le sacrilège sont bien plus que cela. Et parfois, on dit souvent que le diable se cache dans les détails. Le blasphème, c'est ne pas prendre Dieu au sérieux et ne pas l'honorer pour ce qu'il est dans les actions qu'il mène dans nos vies. Et vous savez quoi? Nous pouvons faire cela tant dans nos paroles que dans nos actions. Je le disais, le troisième commandement, par exemple, demande de ne pas utiliser le nom de Dieu en vain. Ça veut dire de ne pas l'utiliser de manière inappropriée et pourtant. Alors là, en ce moment, on mène une bagarre avec notre fille pour qu'elle... Vous savez, elle rentre de l'école et elle entend les enfants parler. Et puis, à longueur de journée, elle dit « Oh mon Dieu » ou « Oh my God » en anglais. Ben, c'est pas ce que ça veut dire, mais « Oh my God » à tout va. Est-ce que c'est un problème? Mais il me semble que c'est utiliser le nom de Dieu de façon inappropriée. Nous blasphémons lorsque nous menons nos vies comme si Dieu n'existait pas, comme si nous sommes ceux et celles qui contrôlons nos vies, comme si nous avions la main sur tout en fait. Nous blasphémons lorsque, dans la parole de Dieu, nous choisissons ce qui nous plaît et nous laissons de côté ce qui ne nous plaît pas. Nous blasphémons lorsque nous donnons une image de Dieu qui soit plus acceptable pour nous et pour le monde, au lieu de nous soumettre à ce qu'il nous demande de faire, la manière dont il nous demande d'être. Nous avons besoin parfois que le Seigneur vienne écrire sur le mur de nos vies pour nous interpeller sur ces blasphèmes et sur ces sacrilèges. Est-ce que Dieu écrit sur le mur de nos vies ce matin? Avant, il était facile pour le peuple d'Israël de distinguer entre le sacré et le profane. Vous vous rappelez, hein, toutes ces instructions qui leur étaient données. Ne touchez pas aux bêtes mortes, ne touchez pas, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Ça, c'est sacré. Ne mangez pas le sang. C'est mis à part pour moi. Mais la mort de Jésus est venue chambouler tout ça. Le voile s'est déchiré. Il n'y a plus de limite entre le sacré et le profane. Mais c'est même pire, vous savez. Tout est devenu sacré. Tout est devenu... Il n'y a pas de distinction, il n'y en a plus de distinction entre ce qui est sacré et ce qui est profane. Tout est maintenant sacré. Toute la création, l'environnement, nos voisins, ce qui nous entoure, Dieu nous demande de respecter tout ça, avoir de la déférence pour tout cela. Le psaume chapitre 24, verset 1 le dit, hein, la terre et tout ce qui s'y trouve lui appartiennent. Tout appartient à Dieu. De ce fait, tout est sacré. Et tout mérite que nous traitions ces choses-là avec déférence. Comment considérons-nous nos rapports avec Dieu et avec ce qui lui appartient? Est-ce que Dieu écrit sur les murs de nos vies? Est-ce qu'il y a des endroits dans nos vies qui peuvent nous sembler cachés aux yeux de tous, mais que Dieu voit. Parce que d'un point de vue strictement humain, une coupe c'est fait pour boire. Hein? On n'a pas l'impression que Belshazzar fait quoi que ce soit de mal. Mais aux yeux de Dieu, non. Non. Aux yeux de Dieu, c'est un acte de blasphème. Aux yeux de Dieu, c'est un acte de sacrilège pour lequel il va demander des comptes à Belshazzar plus tard. Est-ce que Dieu nous demande des comptes aujourd'hui? Et plus tard, nous le verrons. À la fin du chapitre, Dieu va faire une évaluation de ce personnage, de Belshazzar. Il va soupeser sa vie. Et moi, j'ai envie de nous poser la question tout de suite, à la fin de nos vies, lorsque Dieu décidera de nous appeler et qu'il va nous peser, nous mettre sur sa balance. Que va-t-il dire? Dira-t-il comme Belshazzar, tu as été pesé, mesuré et tu as été trouvé léger? Ou va-t-il dire, tu as été pesé et mesuré et tu as été trouvé consistant? Tu as été trouvé fidèle, bon et loyal serviteur. Est-ce qu'il va dire cela? Ce matin, je vous laisse avec ces pensées. Je vous propose quelques instants de silence pour y réfléchir. Et je prierai. Te glorifions, Père, pour qui tu es, toi le seul vrai Dieu, le Dieu créateur de l'univers, du ciel et de la terre et tout ce qui s'y trouve, toi qui nous possèdes, toi qui as nos vies entre tes mains. Seigneur, nous voulons, à travers ce texte-là, considérer qui tu es. Tu es ce Dieu véritable, vrai. Ce Dieu qui nous responsabilise quant à nos actes, quant à nos paroles. Ce Dieu qui un jour demandera des comptes à chacun pour la vie qu'il aura menée ici-bas. Et Seigneur, nous regardons l'histoire de Belshazzar qui est clairement un mauvais roi, qui n'a fait aucun cas de toi. C'est pour cela que tu te montres à lui, pour ce jugement. Nous voulons au contraire, Seigneur, être de ceux qui reconsidérons nos voix lorsque nous entendons ta parole. Nous voulons être de ceux, Seigneur, qui nous corrigeons, de ceux qui voulons que nos vies soient des vies éclairées. Des vies de lumière, que nous soyons sel et lumière de la terre, que nous soyons des poteaux indicateurs qui montrent le chemin vers toi, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos fréquentations. En plus, nous remarquons, Seigneur, dans ce texte que nous avons lu, que Daniel n'était pas présent. Ce qui pourrait vouloir dire, Seigneur, qu'il y a des endroits où le chrétien ne met pas ses pieds. Il y a des lieux où qui sont inappropriés pour le chrétien. Nous voulons, Seigneur, te rester fidèle, dans nos actes et dans nos paroles. Seigneur, resplendis encore sur nous, veuille nous pardonner, oui, là où nous avons fauté contre toi, là où nous avons dévié de la route que tu nous as tracée, là où nous avons mis tes commandements, tes principes, tes ordonnances de côté pour faire ce que nous voulions, nous. On te demander pardon, Seigneur, parce que tu es un Dieu aussi qui n'admet pas le péché. Alors, Seigneur, donne-nous de discerner dans nos vies ce qui te contrarie, afin que nous puissions te le confesser et que nous puissions nous mettre en route avec toi, que nous puissions vivre une vie de sincérité, même lorsque nous ne sommes pas vus. Seigneur, garde-nous en tout chacun. Que ton nom soit glorifié dans la vie de chacun. En Jésus-Christ. Amen.